Bonjour à vous, cher Emmanuel. Et vous avez de la chance, vous qui avez le bac en poche. Et ce n'est pas encore le cas des lycéens qui sont venus nombreux aujourd'hui au Studio 106 assister au corrigé d'un sujet de dissertation scrupuleusement choisi par leur professeur Jean-Baptiste Chaumier qui se trouve à mes côtés. Bonjour Jean-Baptiste Chaumier.
Bonjour Adèle Vendrette.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci de nous recevoir Adèle Vendrette.
Vous enseignez au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine et vous êtes venu accompagné de 3 classes de terminale que je salue. Bonjour à vous. Vous pouvez encourager votre professeur, il est très courageux. Hein. Il aura besoin de vos encouragements. On a l'impression d'être au début d'un match de foot, c'est presque ça. En tout cas, vous allez nous proposer un corrigé parfait, n'est-ce pas, puisque c'est le vôtre, d'un sujet de dissertation particulièrement d'actualité. Faut-il avoir peur des machines? Vous avez 50 minutes.
C'est la dernière fois que je paie le prix de l'irritante mortalité du travailleur humain. Smithers, il est temps de refaire une équipe avec les kangourous super intelligents qu'on a élevés.
Désolé, monsieur, mais ils ont rempli leur poche de fournitures de bureau et ont sauté loin d'ici. Il y a une solution plus high-tech.
Plus high-tech que les kangourous?
Mm-hmm.
Mesdames et messieurs, je vous présente les futurs maîtres de la race humaine.
Des caricatures d'andouilles.
Imbéciles, ce sont des robots. Vous allez les former et ils vont vous remplacer.
Nous remplacer par des robots et sans cœur et méprisables.
Alors, ce sont les Simpsons qui vont nous aider à faire la première distinction conceptuelle. Jean-Baptiste Chaumier, faut-il avoir peur des machines? C'est le titre du sujet que nous allons corriger. Ne signifie pas forcément faut-il avoir peur des robots, même si c'est à ça qu'on peut penser en premier.
Oui, bien sûr. Alors là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, bon, on entend pas mal de choses. Il y a cette musique angoissante.
Alors, vous savez ce que c'est? C'est l'ouverture des temps modernes de Chaplin.
Mais qui, ici, prend un aspect angoissant.
Exactement.
Quand elle est, voilà, dans ce contexte-là, avec les paroles qu'on entend. Ce robot qui est bien évidemment méchant, puisqu'après tout, on pourrait se dire pourquoi les robots, à supposer qu'ils existent, ne puissent pas être sympathiques et voilà. Et puis, qui, en plus, a comme ambition de nous remplacer. Donc, toutes les angoisses, voilà, sont présentes, les angoisses qu'on peut avoir par rapport à la machine sont présentes dans ce petit extrait. Bien évidemment, l'objectif d'une dissertation de philosophie, une réflexion philosophique, c'est d'essayer de préciser les choses de telle sorte qu'on puisse peut-être démystifier les angoisses qui sont les nôtres vis-à-vis de la machine. Ou en tout cas de les préciser en vue de formuler les raisons exactes qui pourraient nous faire craindre, s'il y en a. Le fonctionnement, l'existence, l'évolution des machines.
Ce qui n'est pas facile avec ce sujet, si je me mets à la place d'un élève le jour du bac, c'est que la notion de peur et celle de machine ne sont pas des notions, des thèmes étudiés pendant l'année. Il faut les raccrocher à autre chose. La technique, par exemple.
La plupart des sujets contiennent en général le mot qui est en même temps une des notions qu'on étudie au bac. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais les élèves, je pense, auront vite repéré qu'il s'agit ici de la notion de technique. C'est en même temps un risque, puisque bien évidemment, la machine et la technique, ce n'est pas tout à fait pareil. Et précisément, c'est là qu'on va pouvoir commencer à dire des choses intéressantes. De quoi doit-on avoir peur dans la machine, qui est spécifique à la machine et qui n'est pas forcément le cas pour l'ensemble des outils ou tout ce qui est technique, puisque la technique... Ça comprend en fait 3 choses. Il y a le savoir-faire manuel, hein, le pianiste qui travaille sa technique. Ça comprend aussi les outils. On va sans doute préciser ce point, mais un outil, ça prolonge la main. Ça suppose aussi une sorte de savoir-faire en réalité, un apprentissage. L'outil suppose une technique. Quant à la machine, elle intègre en quelque sorte l'activité humaine et elle a une autonomie que l'outil n'a pas. Alors, on a un premier mot, déjà, celui d'autonomie. Est-ce que le fait que la machine ait autonomie est une raison pour en avoir peur? On va se poser cette question-là. Peut-être que la machine a d'autres spécificités, d'autres caractères qui peuvent justifier, ou non, la peur ou la crainte qu'on en a. Bon, c'est l'analyse du sujet, en fait, hein, qu'on est en train de faire. Donc, une des entrées possibles pour analyser un sujet, c'est de s'interroger sur les mots qui le composent. Donc la machine, on l'a vu un petit peu, j'y reviendrai peut-être, ça fera le contenu de la dissertation aussi, elle est certainement à distinguer au moins de l'outil. Peut-être aussi, on y pensera plus tard, de l'organisme. Hein, c'est pas tout à fait pareil, une machine, un organisme, et la source, sans doute, des angoisses qu'on a vis-à-vis des machines peut venir de cette confusion entre machine et organisme. Je laisse ça de côté pour le moment, et je m'arrête sur le mot de peur.
Attendez, juste encore une question avant d'arriver à peur. Ne serait-ce que pour essayer de définir ce qu'est une machine, c'est pas évident.
Alors,
comment vous définissez une machine?
Voilà. C'est d'autant plus difficile que...
À moins que vous décidiez d'en venir après la peur, là c'est libre à vous. Mais puisque vous avez commencé avec la machine, je me dis, le but c'est de définir les termes qui sont employés. Comment on définit une machine?
Voilà. Alors plusieurs remarques. Définir, ça peut s'entendre en deux sens. Il peut y avoir déterminer les usages d'un terme. Hein, en quel sens on utilise le mot machine? Alors on fait des phrases dans lesquelles il y a le mot machine. On dit voilà, ma machine ne marche plus, les machines sont en panne. Bon. Et puis il y a pourquoi pas machination. Aussi, une machination, c'est précisément quelque chose qui vise à nous tromper et qui suscite une sorte de méfiance, voire de paranoïa. Les termes du sujet, définir, il y a ça, l'usage des termes, et puis il y a aussi, mais ça c'est tout le travail de la philosophie, essayer de trouver une essence. Au fond, un élève qui fait une dissertation, il se trouve à la table des philosophes et il contribue, par le petit travail qu'il fait, sur 5 ou 6 pages, à définir, en définitive, ce que c'est que la machine, plus largement la technique ou autre chose. La réponse à la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'une machine, mais en répondant à la question, doit-on avoir peur des machines, on contribue à définir, à trouver l'essence de ce qu'est une machine. Effectivement, ça n'est pas facile, d'autant plus que ni les élèves, sauf certains d'entre eux, là, qui sont en spécialité sciences industrielles, qui en savent beaucoup plus que moi, mais en tout cas, moi, je n'ai pas véritablement de définition technique de la machine.
C'est un comble.
Voilà. Et donc, je me retrouve dans cette situation inconfortable de beaucoup de philosophes de parler de ce dont ils ne savent pas grand-chose. Mais d'être tout de même obligé d'en parler parce que c'est une question qui se pose autour de nous, sur laquelle il est permis d'avoir un avis, et puis parce que, avec les connaissances philosophiques que je peux avoir, ou que les élèves ont, et puis la capacité de réflexion que tout être humain possède, on peut tout de même arriver peut-être à débrouiller un peu les choses et à progresser dans cette question, en savoir un petit peu plus. Je me souviens que quelqu'un m'avait dit, au fond, la dissertation de philo, ça consiste à se demander toujours, est-ce qu'on peut dire que ? Et je trouve que c'est une bonne façon de définir la disserte. En définitive, est-ce qu'on peut dire que on doit ou on ne doit pas avoir peur des machines, avoir peur de telle ou telle machine? J'en viens à la peur.
Allez-y, allez-y à la peur. De toute façon, le but de la dissertation sera aussi d'affiner ces définitions que vous proposez. La peur, c'est aussi très difficile à définir.
Alors,
on peut la distinguer de l'angoisse, de l'inquiétude.
Une des astuces qu'on peut avoir peut-être pour définir en première approche, c'est de distinguer, comme vous venez de le dire. Alors la peur, ce n'est peut-être pas tout à fait la crainte, ce n'est peut-être pas tout à fait l'angoisse ou la méfiance. Voilà, quand est-ce que j'ai peur? Lorsque les choses arrivent tout de suite, que je peux et que j'ai, comment dire, la peur est une émotion. C'est-à-dire que, elle peut me bouleverser, de telle sorte qu'elle est également involontaire. Alors je regarde le sujet à nouveau, avec les élèves, avec lesquels on réfléchit, on se dit, mais faut-il avoir peur? Il y a tout de même une petite difficulté, puisque la peur ne peut pas être un devoir ou une obligation. On ne peut pas obliger les gens à avoir peur, ou pire encore, à ne pas avoir peur. Vous dites à un enfant, n'aie pas peur du noir, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il aura toujours peur du noir, ou peur dans le noir, ce qui n'est peut-être pas tout à fait pareil. Et donc, là, on note ça peut-être sur un bout de la feuille de préparation, on se dit tout de même, faut-il avoir peur? C'est pas un devoir. On peut pas répondre à cette question de cette façon-là. Donc, il y a deux choses possibles. Soit reformuler la question, c'est le choix que j'ai fait. Soit consacrer peut-être une partie à cette émotion, à la peur qu'on a des machines. Quelles sont les raisons qui font qu'on a peur des machines avant de se demander s'il faut en avoir peur? Ça, c'est une progression aussi qu'on peut envisager.
Mais reformuler le sujet, c'est une manière de dégager ce qu'on appelle la fameuse problématique, ou c'est une manière de substituer à la question posée une autre question? Auquel cas, on risque le hors-sujet.
Alors, reformuler le sujet si c'est nécessaire. Ici, c'est nécessaire. Pourquoi ? Puisque comme il est impossible de faire de la peur des machines un devoir, il faut poser la question sous une formulation qui permette qu'elle ait un sens.
Mais alors, du coup, on se demande pourquoi est-ce que la formulation n'a pas un sens en premier lieu ?
Eh bien, parce qu'elle est livrée comme ça aux élèves, et il s'agit de...
Il ne faut pas trop demander pourquoi.
Voilà, si, tout à fait. Il y a la possibilité pour les élèves de remettre en question la façon dont le sujet est formulé.
Mais s'il a été formulé ainsi, c'est pour une raison précise.
Eh bien, c'est peut-être en se disant, tiens, les élèves vont pouvoir déjouer ce piège. On leur demande d'être de bons lecteurs, en fait.
D'accord. Hein,
c'est la fin de leurs études, il faut qu'ils sachent lire. Et donc, faut-il avoir peur ? Ils doivent peut-être avoir ce réflexe, se dire, bon, il est plus pertinent de se demander si on doit craindre, si on doit se méfier, si on doit prendre des précautions face aux machines, que de se demander s'il faut avoir peur.
Donc, on peut prendre le risque, même c'est même encouragé, de proposer une autre formulation du sujet pour en arriver à cette problématisation. Quelle serait votre problématique, Jean-Baptiste Chaumier ?
Alors, la problématique, c'est pas tout à fait, si je parle un peu technique de la dissertation, c'est pas la question qui va remplacer la question sous une autre forme.
Précisément.
Là, j'ai remplacé ou on a déplacé la question pour qu'elle ait un sens. La problématique, c'est un processus qui occupe l'introduction et qui va permettre de transformer une question en problème. C'est-à-dire de faire en sorte que une question à laquelle on pourrait répondre comme ça, par oui ou par non, on se rende compte que ça n'est pas si simple et qu'on va donc être obligé de faire un développement. Alors il y a plein de façons de montrer qu'une question n'est pas si simple. On peut se dire les termes sont confus, ils ont plusieurs sens. On peut se montrer aussi qu'il y a deux réponses qui peuvent paraître contradictoires, opposées, mais qui ont chacune leurs avantages. On peut également montrer que la question est floue non seulement à cause du sens des termes, mais parce qu'elle porte sur plusieurs domaines possibles, la politique, l'art ou la science. Voilà, donc il y a plein de façons, me semble-t-il, de problématiser.
Quelle est la vôtre, celle que vous avez choisie pour ce sujet ?
Alors,
parce qu'il faut qu'on avance dans le... On n'a même pas la problématique, on a encore trois parties à évoquer.
Bien. Donc on commence peut-être par constater qu'effectivement, les machines dont on est entouré, nous vivons dans les machines du matin au soir, hein, ça commence avec la brosse à dents, le radio réveil même, et puis après, donc nous sommes dans un monde rempli de machines, et qu'en même temps, le discours exprime, et les représentations qu'on en a, une sorte de méfiance, d'hostilité, voilà, dont on trouve la trace dans les films. Ça, c'est le premier point. Donc, on vit dans les machines, et puis on a cette sorte de méfiance. Cette sorte de méfiance, d'autre part, elle paraît paradoxale, parce qu'enfin, les machines, ça n'est pas la nature. Les machines, c'est nous qui les fabriquons. Les machines, c'est nous qui les utilisons. Les machines, elles sont là, normalement, pour donner un avantage dans notre travail ou pour des tas de tâches que nous effectuons. Donc, ça, c'est le deuxième paradoxe, si vous voulez. Premier paradoxe, on en a peur alors qu'on les utilise tout le temps. Deuxième paradoxe, on a peur de quelque chose qui vient de notre propre production. On peut comprendre qu'on ait peur d'un agent bactérien, d'un germe, de quelque chose qui vient de la nature, que nous ne pouvons pas contrôler. Il est plus difficile de comprendre pourquoi on devrait avoir peur
de
des machines.
De sa brosse à dents.
Voilà. Ou de sa montre, ou d'un orgue, ou de, voilà, des tas d'objets qui sont mécaniques.
Ce serait la problématique. Non, là, vous l'avez reformulé ou
non,
ça
non,
suffit
là,
pour commencer ?
On a montré qu'il y avait une difficulté. Et puis après, peut-être qu'on peut annoncer le plan ou préciser un peu les questions. Donc, quelles sont les raisons qu'on pourrait avoir de craindre spécifiquement les machines plutôt que les outils ? Les machines plutôt que la technique en général ? Les machines plutôt que la nature ? Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques qui justifient le fait qu'on ait à prendre des précautions et qui peuvent peut-être expliquer la peur qu'on a devant les machines.
Pour illustrer cette peur et ce rapport familier que nous entretenons avec les objets, je me tourne vers vos élèves, puisqu'on a choisi quelque chose qui va leur parler. Vous nous aviez proposé, Jean-Baptiste Chaumier, c'était une très bonne idée, la chanson de Boris Vian, La complainte du progrès. On en a choisi une autre, qui un peu plus contemporaine, qui traduit à sa façon, célèbre et en même temps critique, le rapport quasiment fusionnel que nous entretenons avec un certain type de machine. C'est le téléphone portable et la chanson s'appelle « Mon précieux ».
Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby.
Précieux, c'est le téléphone portable. Vous connaissez cette chanson, Jean-Baptiste Chaumier ?
Non, pas du tout.
Vous savez combien de fois elle a été vue sur YouTube ?
Comment ?
Vous savez combien de fois elle a été écoutée, vue sur YouTube ?
Aucune idée.
Près de 80 millions de fois.
Oui, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Vous, qui chante cette chanson ? Je me tourne vers vos élèves. C'est qui ? Vous connaissez ? Ceux qui disent non, j'ai du mal à les croire. Vous écoutez ou pas ? Ce sont toujours les autres qui écoutent Soprano, non ? Bah, voilà. Mon précieux, alors ça fait penser au Seigneur des Anneaux, My Precious, hein, le précieux, c'est le téléphone portable qui est dans la chanson et est célébré comme l'être aimé. Voilà le type de rapport fusionnel que l'on peut entretenir avec une machine bien connue qu'est le téléphone portable. Voilà ce que vous disiez, donc ce qui constitue notre environnement quotidien et dont en même temps on se méfie parce qu'il est impossible aujourd'hui de passer sa journée devant son téléphone sans entendre une voix qui s'élève à côté disant « mais tu passes trop de temps, attention, attention, attention ». C'est une bonne manière de problématiser les choses.
Alors peut-être oui, le téléphone portable, c'est peut-être un bon exemple, à condition, enfin, un des écueils, je veux dire, c'est de faire un développement trop long sur le risque d'addiction aux machines. Mm-hmm. Par exemple, d'addiction au téléphone portable. Mes parents ont peur des machines, pourraient dire les élèves, parce qu'ils ont peur que je sois addict au téléphone portable. Après tout, on peut être addict à bien d'autres choses que téléphone portable. Il n'y a pas une raison particulière dans les machines pour susciter l'addiction qu'on ne trouverait pas dans la drogue, l'alcool, le jeu ou tas d'autres activités. En revanche, le téléphone portable, effectivement, il suscite deux sortes de réactions qui peuvent être opposées et qui viennent de sa nature de machine. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, enfin, qui viennent de sa nature des machines, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, une complexité à l'intérieur à laquelle je n'ai absolument pas accès. Mm-hmm. Je ne comprends pas cette machine, pas plus que je ne comprends la télévision. Certains comprennent ce que c'est qu'une radio, moi pas tellement, comment ça fonctionne. Mais la plupart des machines, nous ne comprenons pas leur fonctionnement. Donc ça met dans un état d'extériorité, où je perds la maîtrise en quelque sorte de la machine. Alors, ça suscite une méfiance, ça suscite peut-être une hostilité parce que vous connaissez comme moi ce moment où le téléphone portable... comment dire, il faut le changer, ou il faut changer la configuration, et là on se retrouve avec des tas de possibilités qu'on n'arrive absolument pas à utiliser, et on est complètement perdu. Donc un fonctionnement, un mode d'emploi qu'on n'a pas en tête, et puis un fonctionnement auquel on n'a pas accès, on est obligé de trouver un réparateur lointain qui va le détraquer encore plus qu'il ne l'était, et donc je me trouve mis effectivement à l'extérieur de la machine. Et dans ce cas-là, la réponse qu'on va faire gentiment, c'est que tout de même, ce sont des machines qui sont fabriquées par des êtres humains pour mon progrès, et je réponds de façon très individualiste, mais c'est pas moi qui l'ai faite cette machine, c'est pas moi qui l'a... ça va trop vite pour moi. Et donc cela, c'est pas propre au téléphone portable, hein, c'est propre à toutes les machines par différence avec les outils. Les outils, je peux voir assez facilement comment m'en servir. Je peux apprendre à m'en servir, ça suppose un savoir-faire. La machine... à un mode d'emploi qui n'est pas forcément facile à comprendre et qui peut donc me mettre à distance. Voilà une première raison pour craindre les machines qui vient de sa nature même.
Ça, ce serait l'objet d'une première partie.
Ce serait l'objet d'un premier paragraphe même, dans une partie où je chercherais les raisons de craindre les machines propres à sa nature, avant de passer dans une deuxième partie les raisons propres à son usage.
D'accord, donc voilà. Faut-il avoir peur des machines ? Dans la première partie, vous diriez, mais est-ce la nature des machines que nous craignons ? Dans la seconde, est-ce l'usage que nous faisons des machines qui est à craindre ?
Oui.
Donc c'est pas oui, non, c'est deux façons différentes de répondre à la question, dans votre plan.
Alors, un plan n'a pas forcément pour vocation d'être oui, non, peut-être, hein. Et même oui, non, avec donc, ou une troisième partie qui ferait un dépassement. Un plan, c'est une progression. Donc, on va séparer un certain nombre d'étapes. L'objectif est de progresser vers une réponse au problème qu'on a posé.
Alors, allons-y. Essayons de progresser. Donc, début de cette première partie, voilà, est-ce la nature même des machines qui a de quoi nous effrayer ?
Voilà. Alors, effectivement.
On peut prendre l'exemple du téléphone portable ou autre.
Expérience personnelle, individuelle, de chacun d'entre nous. La machine, c'est compliqué. Et donc, ça suscite une sorte d'hostilité ou de méfiance. Par ailleurs, quelque chose qui est également propre à la machine et pas à l'outil, c'est la puissance qu'elle peut dégager. Beaucoup plus que n'importe quel outil. Et là, peut-être qu'il y a une autre raison de craindre la machine pour elle-même. C'est la différence qu'on peut faire entre un accident et une catastrophe. Un outil, se couper avec un ciseau ou un couteau de cuisine, ça fait très mal, c'est un accident domestique, ce n'est pas encore une catastrophe. Mmh. Un accident d'avion, c'est une catastrophe aérienne. Un accident de train, c'est une catastrophe ferroviaire. Et sans parler, bien évidemment, enfin j'en parle, des catastrophes nucléaires, hein, de Tchernobyl ou de Fukushima. Alors là, il y a une différence qui peut paraître de degré, qui en réalité de nature. La raison qu'on a de se méfier véritablement des machines, c'est une très bonne raison de s'en méfier, c'est que d'une certaine façon, à la différence de l'outil, on n'a pas droit à l'erreur. L'erreur provoque une catastrophe. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un outil. Et ça, nous en avons fait l'expérience au XXe siècle, avec plusieurs, notamment avec les catastrophes nucléaires. Mais on le voit aussi donc avec...
Ce n'était pas une erreur.
Concernant Tchernobyl.
Ah, Tchernobyl, là, je croyais que vous pensiez aux bombes atomiques, justement,
non,
des choses. Parce qu'il y a une utilisation des machines très dangereuses et catastrophiques qui est volontaire.
On y viendra. Hein, parce que là, il s'agit de l'usage. Et non pas de la machine en tant que telle. La machine en tant que telle, même lorsque nous voulons l'utiliser à des fins qui sont favorables pour l'être humain, elle peut se détraquer. Et là, ça peut avoir des conséquences. Donc je répète ce mot de catastrophique.
Catastrophique, vous pensez à un philosophe en particulier pour cette partie ? Alors, parce que là, il n'y a pas encore de référence scientifique, ce qui n'est pas forcément nécessaire.
Ici, si on comprend qu'une des spécificités de la machine, c'est sa puissance potentielle, alors, on est amené à se souvenir du texte de Hans Jonas, que souvent on étudie en classe, et qui parle d'un principe responsabilité. Hans Jonas ne parle pas des machines spécifiquement, il parle de la technique, mais ça s'applique tout à fait aux machines.
Vous l'étudiez en cours,
Hans Jonas ? On l'étudie en classe,
parce qu'il n'est pas parmi le plus connu des philosophes.
Il est dans beaucoup de manuels, ce texte, sur le principe responsabilité, et il explique la chose suivante, c'est que la puissance technique du XXe siècle nous oblige à avoir une responsabilité envers les générations futures. C'est-à-dire que la morale, ce n'est plus seulement envers mon proche, mon prochain, ce que je dois faire envers mon contemporain, mais comme ce que je peux faire aujourd'hui peut avoir des conséquences tout à fait désastreuses pour les générations à venir, alors je dois avoir cette responsabilité vis-à-vis de l'avenir. C'est un peu l'origine, le texte a été écrit en 1979, je crois, c'est une des origines de ce qu'on appelle le principe de précaution. Mm-hmm. Il y a une différence entre les deux, je m'arrête pas là-dessus pour l'instant. Mais Hans Jonas, quand même si on ne connaît pas son nom, il est dans tous les esprits depuis 40 ans, puisque ce qu'on appelle le principe de précaution est issu directement de cette œuvre qu'il a écrite, le principe responsabilité.
Que ce soit l'occasion d'aller lire ce texte, comme vous dites, il y a souvent un extrait dans les manuels de philosophie, il est bien utile à convoquer pour les dissertations.
Oui.
Comment vous terminez cette première partie, vous justifiez le passage à la seconde partie ?
Alors, cette première partie, en fait, dans les deux premiers paragraphes, je montre qu'il y a des raisons propres à la nature de la machine qui font qu'on peut les craindre. Et puis, dans le dernier paragraphe, je montre, à la suite d'Hans Jonas, qu'on peut tout de même, face à cette spécificité de la machine, avoir une réponse, un comportement qui fait qu'on peut surmonter ces deux difficultés ou ces deux risques. On peut bien évidemment, concernant le danger des machines extrêmement puissantes, prendre les précautions que Hans Jonas nous invite à prendre. Il s'agit du contrôle, ce sont les métiers d'avenir, finalement, les métiers de contrôleur. Et par ailleurs, on peut se souvenir aussi d'un texte que les élèves étudient parfois, En tout cas, qu'on étudie, que moi j'ai découvert grâce à vous en écoutant une série d'émissions l'année dernière sur Gilbert Simondon, d'excellentes émissions. Et donc, j'ai lu le livre de Gilbert Simondon qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Et donc là, il explique, en fait, il va tout à fait contre ce qu'il appelle le misonéisme. Le misonéisme, c'est la crainte du nouveau. Il dit, on ne doit pas avoir de misonéisme concernant les machines. Nous prenons la machine comme quelque chose qui nous est étranger. En réalité, dit-il, la machine, c'est l'étranger en laquelle était formé de l'humain, méconnu, matérialisé, asservi, mais restant pourtant de l'humain. Il ajoute, la plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans la méconnaissance de sa nature et de son essence. Connaître sa nature, et puis dans le prolongement de cette connaissance, savoir utiliser une machine, savoir démonter une radio, la remonter, démonter un moteur, le remonter, comprendre en quoi la machine, effectivement, est non seulement pas un être naturel, un être qui est fabriqué par nous, mais un être que l'on peut aussi apprivoiser, en quelque sorte, hein, contrôler. Eh bien, voilà une réponse qu'on peut donner à ces deux premiers types d'angoisse. Premier, oui.
Simondon, juste un mot sur Simondon, oui. La manière qu'il a parlé de la technique et de la considérer la machine et peut-être la technique comme une forme d'être vivant. Justement, c'est ça qui est intéressant, on y reviendra sans doute.
Oui.
Mais c'est une approche de très particulière de la machine.
Oui, plus largement, il faut réintégrer la machine dans la culture.
Voilà.
Hein, c'est pas un simple moyen, c'est un objet dans notre monde auquel on doit donner une importance et une valeur bien plus grande que celle de simple moyen. C'est ce que je crois, Gaston Lagaffe, par exemple, a bien compris.
Bon, c'est très dense, cette première partie, oui. Même si votre rôle de professeur, vous n'êtes pas élève, sauf aujourd'hui un petit peu devant vos élèves, c'est d'enseigner aussi des choses, de se servir de ce prétexte que la dissertation pour nous apprendre des choses. Si on n'a pas exactement ces connaissances, c'est pas grave. On peut, l'idée générale que vous développez dans la première partie, il suffit qu'on la développe à notre façon.
Oui.
En tant qu'élève, c'est ça?
Oui, oui.
Très bien. Non, mais vous nous rassurez.
Oui,
si on ne connaît pas Antionas ni Simondon, voilà.
Non, sans connaître Simondon, alors Antionas, si, normalement, un certain nombre d'élèves
donc
le connaissent.
On doit connaître. Vous connaissez Antionas?
Oui.
Ce sont vos élèves,
voilà.
C'est pas très objectif. Comment passe-t-on à la deuxième partie?
Alors, la deuxième partie, donc on a étudié les raisons qui tiennent à la nature de la machine et qui font qu'on peut la craindre. On a montré que ces raisons font... on pouvait trouver une réponse, hein, trouver un moyen de diminuer cette angoisse qu'on a vis-à-vis de la nature de la machine. Et donc, on va s'interroger maintenant sur les usages. Est-ce que ce ne sont pas plutôt les usages de la machine qui doivent nous faire peur que sa nature? Est-ce qu'il y a des usages propres à la machine qui doivent, effectivement, qui sont susceptibles de susciter une crainte, une angoisse, une peur, ou de prendre des précautions?
Difficile de ne pas penser aux cas extrêmes qui sont souvent traités dans les films. Vous parliez de catastrophes, les machines qui nous font peur, les machines qui peuvent se retourner contre nous-mêmes. C'est le sujet de beaucoup de films. En voici un, parce que je serais assez intéressée de voir si, selon vous, on peut l'utiliser de manière intelligente dans une dissertation. J'espère que la réponse est oui.
John Connor. Il est temps. Il y a un nouveau Terminator. Le TX. Il a été conçu pour l'ultime combat. Il est plus rapide, plus intelligent et plus puissant.
Oh non !
Il a été programmé pour détruire d'autres organismes cybernétiques. Il a été renvoyé dans le temps, dans un seul but. Nous exterminer.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la bande-annonce de Terminator, le film d'Arnold Schwarzenegger en 2003, à l'occasion du corrigé d'un sujet de dissertation pour cette série spéciale Bac Philo. Faut-il avoir peur des machines? C'est le sujet proposé par le professeur de philosophie Jean-Baptiste Chaumier, qui est ici en compagnie de ses élèves du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Dites-nous, Jean-Baptiste Chaumier, comment convoquer des exemples cinématographiques dans le cadre d'une dissertation? Ils sont autorisés? Sous quelle modalité? Est-ce que tous les films sont permis? Ou est-ce qu'il faut parler que des films néo-réalistes en noir et blanc des années 60?
Alors, tout est permis à deux conditions. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire l'usage qu'on fait de l'extrait, ça peut être un extrait contemporain, ça peut être un extrait d'un film extrêmement connu. J'entendais l'autre jour un collègue dire qu'on n'était pas fatigué de lire ou d'entendre ou de prendre les élèves qui prennent comme extrait l'Enfant sauvage. Bon, L'enfant sauvage, c'est un très très beau film. Le film de François Truffaut, tout dépend finalement ce qu'on fait de cet exemple. On peut pas interdire aux élèves de...
Bah, c'est surtout généralement un exemple pris par les professeurs, que les élèves utilisent parce que les professeurs plus que Schwarzenegger.
Il y a peut-être des raisons de prendre ce beau film de Truffaut comme exemple, plus que Schwarzenegger. Alors, pourquoi plus que Schwarzenegger? Je vais m'engager un tout petit peu, parce que précisément, dans un film comme ça, sur un sujet comme ça, la première réaction des élèves, c'est « Ah, formidable, voilà un sujet contemporain qui pose des questions d'actualité. » Et donc, ils font cette double réduction de la machine au robot et du robot à une sorte de conscience humaine nécessairement négative. Alors qu'il s'agit au contraire, si on prend un tel exemple, de montrer que c'est une très très bonne façon de mettre en évidence les confusions qui règnent concernant la pensée de la machine ou l'image ou les représentations qu'on a de la machine et qui font qu'on a peur pour de très mauvaises raisons peut-être de la machine. Quelle confusion ? Dans l'exemple, dans l'extrait de cette bande-annonce de Terminator, si on la revoit... Bon, c'est un côté un petit peu désuet. Maintenant, ça vient de 82.
Là, c'est 84. 2003, là. C'était...
Ah, c'est pas celle-là.
Oui, parce que il y a eu plusieurs Terminators.
Oui. J'avais vu le deuxième.
Oui.
86.
Alors.
56.
Là, vous savez mieux. Non, 56, ça, c'est sûr que non.
Je sais pas. Donc, et alors, avec Terminator, on impose en quelque sorte au spectateur qui vient là pour un divertissement. Hein. Il vient pas du tout là pour réfléchir sur les machines. Donc, on peut pas reprocher à Cameron de faire des choses comme ça. Mais donc, on lui impose un exosquelette qui a nécessairement une conscience et dont la conscience serait nécessairement, au service d'intentions mauvaises. Et en plus, avec un voyage dans le temps. Alors, on passe beaucoup de temps en classe à expliquer que le voyage dans le temps, c'est pas possible, puisque ce qui est devant nous dans le temps n'est nulle part, ce qui est derrière nous dans le temps a définitivement disparu. Et maintenant, on doit passer du temps aussi à essayer d'expliquer qu'une subjectivité, c'est quelque chose qui a bien sûr un support peut-être matériel, le cerveau, la conscience, des réseaux de neurones, si vous voulez, mais que ça ne se... qu'on ne peut pas le réduire à un mécanisme. C'est assez difficile à expliquer. Mais on voit bien qu'il y a une sorte une imposture à vouloir faire croire qu'on passerait aussi facilement de l'automate à la machine qui joue aux échecs, de la machine qui joue aux échecs à une machine qui fait le ménage et puis qui vous donne votre emploi du temps pour la journée, je pense à Her, à une machine qui serait véritablement consciente. Là, un certain nombre de sauts qu'on doit quand même remettre en question et vis-à-vis desquels on peut avoir un regard critique.
Donc c'est-à-dire que pour commencer cette seconde partie, enfin même la continuer sur... l'usage que nous devons craindre des machines, vous prendriez un autre type d'exemple parce que Terminator vous paraît peu réaliste, au fond. C'est le propre de la science-fiction.
Mais dans Terminator, c'est pas l'usage des machines qui est mauvais, parce que c'est les machines elles-mêmes qui sont mauvaises. Donc c'est ça qui est intéressant ici, de montrer que bien évidemment...
Donc pour la transition, ce serait parfait.
Transition ou un début de deuxième partie, de montrer que ce qui est à craindre, ce ne sont pas des machines qui voudraient faire le mal... puisqu'elles n'ont pas de subjectivité, ce sont des individus qui pourraient utiliser des machines pour faire le mal.
Puisqu'on
a vu qu'elles avaient une certaine puissance. Alors, il peut y avoir des projets d'anéantissement. On sait qu'il y a un certain nombre de dictateurs sur cette planète qui caressent l'idée, avec la possession de l'arme nucléaire, de pouvoir peut-être accroître leur pouvoir sur les pays voisins. Bon, donc, en tout cas, effectivement, et là... On peut reprendre. Enfin, c'est vous qui évoquiez Hiroshima et la bombe atomique. Une fois que c'est arrivé, on tremble quand même. C'est-à-dire qu'on craint, bien évidemment, qu'il est toujours possible que quelqu'un, un jour, pas seulement par maladresse, mais aussi volontairement, puisse, avec ses machines puissantes, faire beaucoup de mal. Voilà. Ça, disons que. Bon, mais. C'est le premier point qui nous permet de bien comprendre, de bien préciser que ce ne sont pas les machines par elles-mêmes, mais que c'est un sujet qui va utiliser des machines puissantes et qui peut faire du mal dans ces cas-là. Deuxième point, quel est l'autre usage des machines qui est à craindre, que nous craignons ? C'est aussi quelque chose qu'on entend dans l'actualité, c'est le fait que les machines pourraient remplacer progressivement dans la société le travail humain, et nous faire parvenir, pour le meilleur ou pour le pire, à une société qui ne serait que de loisirs. Alors, ici, donc on peut évoquer, c'est un texte qui est souvent dans les manuels aussi, que les élèves connaissent, évoquer ce texte d'Anna Arendt, le rappeler, dans lequel elle dit que la différence entre l'outil et les machines, c'est que la machine peut remplacer presque complètement l'outil. Anna Arendt l'avait remarqué philosophiquement, c'est un sujet qui ne date pas tout à fait d'hier, puisqu'on se rend compte, en regardant un petit peu dans l'histoire, que dès la fin du XVIIIe, il y avait des révoltes d'ouvriers contre l'arrivée de machines anglaises, textiles, qui prenaient leur travail. J'ai vu que le 14 juillet 1789, à Rouen, il y avait eu des émeutes, des violences terribles, à l'occasion d'arrivée de machines anglaises, et donc les ouvriers textiles à Rouen voulaient renvoyer ces machines. Ça s'est appelé le ludisme, je crois, au 19e, tout un mouvement anti-machine. Voilà. Donc qui ne date pas tout à fait d'hier, et depuis 150 ans, on ne sait pas très bien si on doit considérer que c'est positif, parce que ça enlèverait les travaux pénibles, et ça nous donnerait plus de temps pour faire des choses nobles, ou négatif, parce que nous aurions tout de même besoin d'un rapport au travail direct, que l'être humain ne pourrait pas se passer de travailler. Autre sujet. Alors, sur ce point, bien évidemment, on voit que les progrès des machines nous font craindre, à juste titre, une transformation de la société. Mais ici, à nouveau, c'est nous qui sommes, si je puis dire, les maîtres du jeu. Il y a des règles sociales, politiques, qui permettent d'encadrer l'usage des machines, de savoir de quelles machines nous avons besoin, quand et comment les articuler à notre travail. Ce ne sont pas à nouveau les étrangères qui feraient tout à notre place, ce sont des machines qu'on peut connaître, comprendre, utiliser quand il le faut, comme il le faut. Donc ce qu'on doit viser, ici, plus que le principe de précaution, ce qu'on doit viser, ce sont finalement de bonnes législations. C'est la politique ici, en fait, qui peut résoudre ce problème que pose au travail le progrès des machines. Oui.
Non, mais moi, je vous écoute. Je vous écoute religieusement. J'essaie de voir comment vous articulez ces deux premiers points de réflexion à un troisième. On est toujours dans la partie sur l'usage des machines. Ce que vous proposez est une réflexion très complète, d'un point de vue à la fois politique, personnel. C'est quelque chose qui encore une fois est très instructif et peut effrayer, parce qu'on se dit mais j'ai pas forcément une réflexion politique sur l'utilisation des machines aujourd'hui.
Non, mais il n'y a pas besoin. Enfin, on peut réfléchir un petit peu en se rendant compte que les machines, c'est toujours un peu le même problème. On fétichise la machine comme si ça venait d'elle. Mais l'organisation du travail, ça vient de nous. C'est-à-dire, c'est nous qui décidons quand même, par le vote, par la politique, par l'organisation d'une industrie ou d'une entreprise, c'est nous qui décidons ce que nous faisons des machines. En fait, c'est du bon sens, mais c'est important de le rappeler pour, à l'occasion de ce sujet, chaque fois qu'on le peut, arriver à se défasciner, peut-être.
Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ce plan soit trop descriptif ? La nature des machines, dans un premier temps, l'usage des machines, est-ce qu'il faut arriver à garder un problème en tête, à essayer d'y répondre, qu'il y a un enjeu dynamique aussi ?
Alors, vous avez raison. C'est pour ça qu'il s'agit, à l'intérieur de chaque partie, de montrer que les problèmes qui sont posés trouvent leur réponse. C'est-à-dire que...
Ah, vous avez des réponses à chaque problème posé.
C'est-à-dire que... Alors, je me suis mal exprimé, mais est-ce qu'on doit craindre la nature des machines ? On ne doit pas la craindre parce que c'est en fait l'usage qui peut être plus dangereux. Cet usage, on peut montrer tout à fait qu'on a un contrôle dessus. Donc d'une certaine façon, ici, cette crainte-là, elle est à la fois justifiée et puis nécessaire en vue de mieux utiliser les machines. Je crois qu'il y a un troisième usage des machines que l'on doit craindre, dont on doit se méfier et qui doit susciter peut-être de notre part une réflexion, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être le machinisme plus que les machines. On pourrait dire qu'on doit craindre le machinisme plus que les machines et l'usage des machines, Pascal dirait, hors de leur ordre. Alors, il y a, parmi les films qui reviennent tout le temps, il y a ce fameux film de Charlie Chaplin qui s'appelle « Les temps modernes ». Dans « Les temps modernes », on utilise souvent l'image de ce pauvre contremaître là qui est pris à l'intérieur de la machine. On voit cette image. Il y a une scène que j'aime beaucoup, qui est la scène de la machine à manger, où donc le directeur de l'usine se fait. Il y a un démonstrateur qui avance un petit électrophone. C'est l'électrophone qui fait la démonstration à la place de l'ingénieur. Et donc après, on prend ce pauvre Charlot pour tester cette machine à manger en vue de l'efficacité, de gagner du temps. À nouveau dans le... Et là, on prend tout à fait conscience, c'est une sorte de démonstration. Parfois, les films n'illustrent pas des idées, mais en sont des tests et les démontrent. On comprend très bien que Ce qui est à craindre dans la machine, c'est l'usage de la machine là où non seulement on n'en a pas besoin, mais là on n'en veut pas du tout. Charlot était en train de s'installer confortablement, en train de déjeuner, c'est un moment intime, il est avec lui-même ou avec ses camarades, il parle un petit peu, il s'attend à... le plaisir qu'il peut avoir de manger, et là on lui met une machine. Donc voilà, ça on peut étendre ça, on se dit après tout, très souvent... La fascination qu'on a pour les machines fait qu'on les utilise là où on n'en a pas besoin. On prend notre voiture pour aller à la boulangerie qui est à 200 mètres. On prend un ordinateur qui prend beaucoup de place et qui se décharge alors qu'on pourrait avoir un carnet ou un cahier en classe, par exemple. Il y a plein d'usages comme ça qui peuvent peut-être, qui sont pas nécessaires et qui viennent d'un regard qu'on a sur les machines qu'il s'agit de préciser.
Il nous reste moins de 10 minutes pour aborder la troisième partie, Jean-Baptiste Chaumier. Alors, on a diffusé les Sopranos, un extrait de Terminator. Les élèves connaissent aussi très bien les textes de philosophie lus et étudiés pendant l'année. En voici un qui nous permettra de faire la transition vers la troisième partie. Un texte de Descartes issu des Principes de la philosophie, dans lequel il affirme ne connaître aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose. C'est la première phrase du texte. Vous allez nous expliquer en quel sens cette comparaison, cette identification entre les machines et les corps est légitime selon Descartes et si vous y souscrivez.
Je ne reconnais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose. Sinon que les effets des machines ne dépendent que de l'agencement de certains tuyaux ou ressorts ou autres instruments, qui, devant avoir quelques proportions avec les mains de ceux qui les font, sont toujours si grands que leurs figures et mouvements se peuvent voir. Au lieu que les tuyaux ou ressorts qui causent les effets des corps naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens. Et il est certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. Car par exemple, lorsqu'une montre marque des heures par le moyen des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu'il est à un arbre de produire des fruits. C'est pourquoi, en même façon qu'un horloger, en voyant une montre qu'il n'a point faite, peut ordinairement juger de quelques-unes de ses parties qu'il regarde quelles sont toutes les autres qu'il ne voit pas, ainsi, en considérant les effets et les parties sensibles des corps naturels, j'ai tâche de connaître quelles doivent être celles de leurs parties qui sont insensibles.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, faut-il avoir peur des machines? C'est la question, le sujet de dissertation que nous essayons de corriger. Aujourd'hui, à l'occasion de cette série spéciale Bac Philo et la semaine spéciale préparation au bac qu'organise France Culture, aujourd'hui en compagnie du professeur de philosophie Jean-Baptiste Chaumier, qui enseigne au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine et qui est venu avec ses élèves. Vous êtes toujours là ?
Oui !
Bon, ça fait un peu un oui préparé justement. On vous donnera la parole dans un instant. D'abord, Jean-Baptiste Chaumier, ce texte de Descartes a quelque chose d'assez... provocateur, voire insolent. Comparer un corps à une machine, ça veut dire que nous sommes tous des machines. On n'est pas prêt à accepter cette réalité.
Oui, alors, il faut peut-être s'y remettre un peu dans le contexte. C'est-à-dire qu'une telle, ce que nous, on considérait comme une réduction, en réalité, c'est, du point de vue de Descartes, une analogie tout à fait heuristique, c'est-à-dire qui permet de découvrir des choses qui vont être progressées dans la connaissance. Quand Descartes compare le vivant à une machine, compare le cosmos même et le monde à une machine et considère que tout finalement est mécanique, eh bien c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas comprendre le fonctionnement de la nature physique et puis aussi de la nature biologique et du corps. Et voilà sans doute le point de départ quand même de progrès considérables dans la médecine, qu'il espérait, comme on le sait, dans la sixième partie du discours de la méthode. Alors, cela dit, bien évidemment, une analogie, comme toute analogie, a ses limites. Et considérer que le vivant est comme une machine, c'est en fait ne pas laisser de côté une spécificité du vivant que soulignera 150 ans plus tard Kant, dans un texte aussi que souvent on met en regard de ce texte de Descartes. Et Kant prend l'exemple de la montre, en disant qu'une montre, bien évidemment, c'est une mécanisme, ça ressemble peut-être à un être vivant, les organes du corps ont quelque chose de toutes les pièces qui composent la mécanique d'une horloge ou d'une montre, mais qu'à la différence d'une montre, le corps se régénère lui-même, se reproduit, donc il y a, je vais trouver le texte peut-être, une partie existe pour une autre, écrit Kant, mais ce n'est pas par cette autre partie qu'elle existe. Ou alors, il dit encore, dans une montre, un rouage ne peut en produire un autre, et encore moins une montre d'autres montres. C'est peut-être plus parlant.
Mais quelle est l'idée générale? Parce que le texte de Descartes, vous le convoquez dans la troisième partie.
Alors oui, l'idée générale, c'est de montrer que pour la troisième partie, donc si on récapitule un petit peu, si on refait une transition, dans la première partie, on a vu qu'il y avait peut-être des raisons propres à la nature de la machine de pouvoir la craindre. Et que cette crainte, elle était même positive, ça permettait d'éviter des catastrophes. Dans une deuxième partie, on a vu aussi que les usages de la machine pouvaient bien évidemment être à craindre et que ça suppose donc une politique et une certaine pensée de la machine. Dans une troisième partie, on étend un petit peu la question, on essaie de préciser les choses, d'être plus exhaustif, et de voir si on doit craindre la façon dont la machine est prise comme modèle ou comme analogie. Alors, c'est pour ça qu'on a pris ce texte de Descartes. Hein. C'est-à-dire que c'est bien évidemment un progrès de penser la machine comme un modèle, mais c'est aussi réducteur, ça nous empêche de penser la spécificité de l'organisme ou du vivant. Et l'animal-machine nous permet d'en savoir beaucoup sur l'animal, mais pas tout.
C'est une expression employée par Descartes. Voilà. Parler de l'animal-machine, qui compare les animaux et des machines.
Voilà, qui compare les animaux et des machines. Et qui donc pourrait faire croire, après tout, que tout être vivant, si un être vivant est une machine peut devenir exactement comme un être vivant.
Il vous reste 3 minutes pour cette dernière partie et la conclusion.
Eh bien alors... assez rapidement, donc, un animal n'est pas tout à fait une machine, c'est un être vivant. A fortiori, un être humain non plus n'est pas une machine, c'est-à-dire que le vivant, ce n'est pas que du mécanique, et la conscience non plus, il y a une subjectivité de l'être vivant qui n'appartient pas à la machine. J'avais pris devant les élèves l'exemple de cette victoire par Deep Blue de Kasparov au jeu d'échecs. Mais ce qu'on comprend mal...
Donc c'est un ordinateur.
C'est un ordinateur.
Qui a battu le champion du monde des échecs, Kasparov.
En 2001.
Lors d'un, un combat, enfin un jeu mémorable.
Voilà, il y a deux différences essentielles. C'est que la façon dont travaille l'ordinateur n'est pas la même que celle dont travaille Kasparov, qui a une expérience, des intuitions, une mémoire. La façon dont il va jouer dépend aussi de ce qu'il ressent sur le moment, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'ordinateur. Et l'autre chose... c'est que Kasparov peut être très content quand il a gagné, il peut avoir envie de gagner. Il est absurde de dire que Deep Blue pourrait avoir envie de gagner ou que tous les robots se mettent à faire la hola à la fin du match parce que Deep Blue aurait gagné sur Kasparov. Mmh. Donc il n'y a pas de volonté ou de subjectivité propre à la machine. De ce point de vue-là, ce qu'on doit craindre, c'est les excès ou les abus de l'analogie qui est faite entre la machine, l'organisme, la machine, l'être humain et... c'est le dernier point que je développais, également la machine et la société. Il y a bien des points communs entre une machine et une société, je crois que c'est Spencer qui voyait la société comme une grande machine, mais c'est une analogie là aussi réductrice et qui peut être dangereuse, parce que dans une société, les parties ne sont pas faites l'une pour l'autre ou l'une par l'autre, c'est un ensemble d'individus, c'est ce que Hannah Arendt appelait une pluralité d'individus qui ont chacun leur finalité.
Quelle serait votre conclusion ?
Alors la conclusion, c'est qu'il faut donc remettre la machine à sa place, savoir l'utiliser, savoir la connaître, la penser correctement, afin de pouvoir se protéger des éventuels effets dangereux spécifiques qui sont les siens, bien évidemment, mais aussi afin de se méfier peut-être de tous ces discours qui utilisent la machine comme modèle, qui idolâtrent la machine d'un côté, ou qui au contraire en nient les spécificités.
Vous exprimez votre opinion en conclusion.
Ah ben l'opinion, c'est celle qui découle de tout ce qu'on vient de dire.
Donc la conclusion exprime une opinion. Parce qu'on passe notre temps à entendre que la philosophie est l'inverse de l'opinion, la dissertation est un exercice d'argumentation
plus
que des
opinions. Je ne sais pas si c'est une opinion, c'est une réponse.
Oui, mais une tentative d'opinion, c'est qu'on sent...
on peut difficilement penser, ne pas penser ce qu'on pense, je veux dire...
Donc il faut l'assumer.
Donc il faut assumer le progrès qu'on a fait au cours du travail, de la réflexion, et dire voilà, finalement, Voilà ce qu'on peut dire sur. Et je le dis, puisqu'il me semble que... enfin, alors après, sans doute, la réflexion peut continuer, susciter d'autres objections, mais à ce point, remettre, au bout de 4 heures, ouais. Voilà ce qu'on peut dire.
Il faut remettre les machines à leur place.
Remettre la machine à leur place et les craindre correctement afin de ne pas en avoir peur au dernier moment quand elles arrivent et qu'on ne sait plus du tout ni comment ça fonctionne ni ce qui va arriver. Si on avait craint davantage les centrales nucléaires, Tchernobyl, ça ne serait peut-être pas arrivé.
On va se quitter avec un dernier son, une musique que vous aviez proposée, Jean-Baptiste Chaumier, un air de Beethoven. C'est la 8e symphonie parce que vous dites qu'elle avait été composée à l'occasion de l'invention du métronome.
Oui, c'est un ami de Beethoven qui avait inventé le métronome à ce moment-là. Ça faisait beaucoup rire Beethoven. À l'époque, les tempos des symphonies, enfin, c'était un peu lâche. Les musiciens interprétaient aussi. Et donc, il a composé, vous allez entendre ce morceau qui imite un peu le va-et-vient du métronome et son aspect extrêmement précis. Et donc, il y a quelque chose d'ironique dans cette musique de Beethoven.
On va l'entendre dans un instant. D'abord, laissez-moi vous remercier, Jean-Baptiste Chaumier, vous êtes prêté
moi et tous les élèves
au jeu.
Qui sont là.
Et merci à vos élèves qui ont été patients et sages. Vous pouvez applaudir votre professeur. Je précise que les applaudissements ne sont pas truqués. Et qu'on voit déjà quelques téléphones portables qui sortent, évidemment. Quand on parle de machines, faut-il avoir peur des machines? Ils étaient sagement dans votre poche. Et les voici déjà, parce qu'on vous voit quand même. Mais alors justement, attention, dans un instant, juste après la Beethoven qui va accompagner la fin de cette émission, vous aurez la parole. C'est Géraldine Mosna-Savoie qui fera passer un micro. La magie du micro qui s'allume et qui fait taire instantanément les 80 élèves présents ici. Vous écoutez bien France Culture, les chemins de la philosophie, nous venons de corriger un sujet de dissertation en compagnie du professeur de philosophie Jean-Baptiste Chaumier. Et désormais, la parole est aux élèves. C'est Géraldine Mosna-Savoie qui va la distribuer pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
La parole est à vous et donc aux élèves.
Oui, surtout aux élèves de Jean-Baptiste Chaumier, il y en a 4 à mes côtés. Alice Kohler, Dimitri Decombe en terminale scientifique, Nora Kelloufi et Valentin Rouzière en terminale littéraire. La parole est tout de suite à Valentin Rouzière. Est-ce que vous auriez pris ce sujet le jour du bac en tombant peut-être dans l'écueil qu'a dit votre professeur, à savoir « Ah super, un sujet d'actualité ».
Je pense que la philosophie, c'est très compliqué parce que c'est difficile de répondre à un sujet d'actualité parce qu'on n'a pas le recul sur la question. Et je pense que cette question était peut-être trop d'actualité pour avoir assez de recul sur comment est-ce qu'on aurait pu répondre et aborder ce sujet.
Donc pas un sujet que vous auriez pris a priori?
A priori, non.
Ça ne vous parle pas du tout, la technique?
Non.
Vous, aux côtés de Valentin, est-ce que ça vous aurait dit, par exemple, Alice Kohler, de prendre, vous êtes en terminale scientifique, peut-être que les machines, ça vous parle plus?
Alors, pas forcément, parce que nous sommes dans une classe séparée entre SVT et sciences ingénieurs. Moi, je suis en SVT, donc moi, c'est plus biologie.
Pas de chance.
Mais étant donné qu'on a déjà évoqué, on a travaillé le chapitre sur le travail, on a déjà parlé de la technique, je pense que oui, ce sujet m'aurait tenté.
Comment vous l'auriez traité? Est-ce que tout de suite, les références qu'a données votre professeur, par exemple Antionas, Simondon, Arène, tout ça, c'est des références qui vous seraient venues assez naturellement?
Antionas, oui, parce qu'on en a parlé en cours, et Anna Arendt peut-être aussi. Simondon, par contre, je ne connais pas du tout et je n'en aurais pas parlé.
Vous, Nora, vous êtes en terminale littéraire. Est-ce que, alors, autre écueil qu'a donné votre professeur, alors, c'est un sujet actuel, mais aussi d'identifier machine et robot, est-ce que vous, tout de suite, vous auriez perçu ce risque, ce danger dans cette copie?
Alors, moi, étant en terminale L, en fait, dans un sujet pareil, j'aurais en introduction, en fait, déterminé tout ce qui est plutôt d'un point de vue ontologique des termes, c'est-à-dire que j'aurais fait la distinction entre machine et robot. En fait, j'y pensais aussi, et je pense que c'est même fondamental dans un sujet comme ça. Et il ne faut pas tomber dans justement cet écueil et penser réduire en fait la machine uniquement au téléphone portable ou aux robots, aux intelligences artificielles. Donc, je pense que je l'aurais fait.
Vous auriez pris quoi comme exemple s'il n'y a pas que les robots, s'il n'y a pas que le téléphone portable, vous auriez pensé à quel autre exemple, par exemple comme film ou de la vie quotidienne?
Je pense à un film en particulier, c'est Christine de John Carpenter. C'est une adaptation de Stephen King. Donc Stephen King est très friand de ce genre de scénario un peu catastrophe où justement les machines vont tout simplement dominer le monde. Et dans le film Christine, en fait, j'essaye de faire un synopsis assez rapide. En fait, c'est Arnie, un jeune adolescent qui est un peu timide et coincé, et donc il a toutes ses pulsions qui sont complètement refoulées. Et donc ce qu'il va faire, c'est que il va faire l'acquisition d'une voiture, d'un rouge Garance, un rouge un peu qui fait penser au sang. Et donc cette voiture-là, ça va lui permettre en fait d'exister. Par le biais de sa voiture, il va justement toutes ces pulsions de mort qu'il avait refoulées, il va les assouvir et ça va lui permettre de trouver une sorte d'existence parce qu'il n'existait pas auprès de ses camarades.
Et vous, Valentin, quel exemple vous auriez convoqué? Vous étiez plutôt Boris Vian ou Terminator ou Charlie Chaplin ou Soprano?
Moi, je suis un peu, plutôt vieux jeu. Moi, j'aurais direct, dès que j'ai entendu Boris Vian, si je pouvais en parler, voilà, Boris Vian, j'aurais parlé directement de Boris Vian, s'il m'était venu à l'esprit. D'autres références aussi, si j'avais choisi d'autres références, j'aime beaucoup aussi le film avec Will Smith qui s'appelle iRobot, avec, en fait, justement, dans une société où il y a énormément de robots, etc., d'humanoïdes même, qui deviennent de plus en plus intelligents et capables d'avoir une conscience. Il y en a un qui commet un homicide, en fait, et ça apporte d'autres problèmes aussi, bon, ce qui n'ont pas forcément dans la, qui sont pas forcément dans le sujet, mais je trouve ça très intéressant aussi de voir. Moi, j'aurais aussi beaucoup parlé en fait de l'IA, parce que voilà, la question est très, actuelle, etc. Et l'IA, justement, je pense qu'on se pose cette question par rapport à l'augmentation des capacités de tous les robots. Enfin, évidemment, je serais peut-être tombé dans le piège, hein, dans le piège machine-robot. Voilà, j'avoue. Mais je trouve que c'est très intéressant de parler de toute l'évolution des robots au fil du temps. Et au final, évidemment, les machines nous surpassent, mais même avec l'IA, elles pourront peut-être carrément nous échapper un peu des mains, en fait, et avoir leur propre conscience et avoir leur propre capacité à réfléchir, etc.
Ok, merci, Dimitri.
Oui.
Merci Géraldine. Merci à vous et merci à tous d'être restés jusqu'au bout pour cette émission. Je vous remercie, Jean-Baptiste Chaumier. Je vous remercie, chers élèves. Et si je pouvais, je vous applaudirais. Applaudissez-vous quand même. Et bon courage pour le bac. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Maud Markiewicz, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Elig qui réalise cette semaine, Georges Kless et la lecture des textes. Merci également à tous ceux qui ont permis cette émission d'enregistrer en public depuis le studio 106 de la Maison de Radio France, Guillaume Ledu, Nicolas Slimani, Jean-Benoît Tétu, Maxime Bello, Steven Chardonnay, Morgane Fougerie. Cette émission qui a été également filmée, donc vous pourrez regarder quelques extraits en ligne. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Enfin, une nouvelle émission des Chemins de la Philosophie spéciale vendredi. Ce sera Vincent Delecroix qui viendra vous parler de son livre Non. C'est le titre du livre Non, point d'exclamation, de l'esprit de révolte, publié aux éditions Autrement. Pour réécouter ces émissions spéciales Bac Philo, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Les émissions spéciales Bac continuent sur France Culture. À 14h, 15h et 16h, l'économie, la littérature et les sciences, un programme complet. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.